volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mes invités aujourd'hui, She-Wolf, un trio sans pitié qui vient de sortir son second album, Parasite, du grunge implacable, avec Alice à la guitare et au chant, Fanny à la basse, MC à la batterie. Ce soir, donc, j'ai le plaisir de recevoir Alice et MC. Bonsoir She-Wolf.
Salut.
Alors dites-moi, les restrictions sanitaires sont allégées, les concerts vont pouvoir reprendre. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces divers confinements? Est-ce que votre deuxième album, finalement, il est né de ce confinement?
Il n'est pas né du confinement, mais on avait prévu de le faire pendant le confinement, et du coup ça nous a pas trop dérangé pour notre groupe, parce que du coup on n'avait pas prévu de concert en 2020 pour pouvoir enregistrer, donc du coup pour nous ça tombait bien.
Voilà. Alors vous vous êtes retiré à la campagne ?
Ouais, depuis 5-6 ans, voilà, on était à Paris avant. Et pour diverses raisons, monétaires, de liberté, d'écologie, tout ça, on allait dans le Perche, voilà.
Vous pouvez mettre le son très très fort, j'imagine, les voisins sont pas trop dérangés.
Ouais, les voisins sont cool, il y a quelques vaches qui se plaignent, mais ça va, ça va.
Parlez-moi de votre parcours musical, comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous lancé ce projet ?
Le groupe est né en 2016 à peu près, début 2016. Donc moi je voulais monter un groupe depuis très 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 longtemps, mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion de le faire puisque j'avais fait des études qui n'étaient pas forcément en rapport avec la musique. Et puis voilà, donc j'ai passé une annonce sur internet et Marie-Claude a répondu parmi d'autres gens, puis c'est super bien passé entre nous, donc c'est parti comme ça. Voilà, après le groupe a eu plusieurs différents line-up, différentes guitaristes, différentes bassistes, et là on s'est vraiment stabilisé avec Fanny, ça fait quoi ?
3 ans.
Toutes les trois, voilà, power trio. Et comme on est toutes les trois dans le même village maintenant à la campagne, effectivement, on peut répéter sans payer des fortunes, des heures de studio, sans déranger les voisins et sans avoir à faire du trajet incroyable parce qu'on est juste à côté les unes des autres.
C'est cool. Alors, l'album s'appelle Parasite. Pourquoi ce titre et est-ce qu'il y a un message dans l'album? Et finalement, qu'est-ce qui fait le lien entre les différents titres de l'album?
C'est vrai que on n'avait pas forcément décidé à l'avance que le thème serait Parasite, mais on a écrit pas mal de morceaux. Donc MC a écrit des morceaux, moi aussi j'écris des morceaux, et on s'est rendu compte, justement en essayant de trouver un peu le fil rouge de cet album, s'il y en avait un, que souvent ça parlait de ce qui nous parasite dans tous les sens du terme en fait. Donc ça peut être les politiques, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les autres personnes, nos conjoints, notre famille, voilà, tout ce qui fait obstacle en fait à notre chemin personnel. Alors parfois avec notre consentement, plus ou moins, mais voilà.
Et qu'est-ce qui a changé en fait entre le premier et le deuxième album ? C'est, il y a une évolution, il est plus radical. Enfin, c'est quelle est la genèse de ce projet ?
Déjà le premier album, on était 4 à l'enregistrer. Ouais. Il y avait Diane à la guitare, qui a un son qui est super, mais qui est peut-être moins grunge que maintenant. Et puis voilà, je pense qu'on a pris en maturité. On a voulu faire des compos peut-être plus droit au but. Et on a cherché un son aussi très brut, contrairement au premier où il y avait plus d'effets. On avait mis plein de secondes, de troisième guitare, des choses comme ça pour essayer de faire un album plus psyché. Et là, on s'est vraiment éloigné du psyché. On est vraiment dans le rock grunge, limite garage parfois. Voilà, il n'y a aucune fioriture. C'est vraiment basse, guitare, une basse. C'est enregistré en live. À part les voix, on voulait vraiment faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui se fait actuellement dans les grosses productions. on a voulu faire un truc vraiment brut, quoi.
Ouais, puis on, comme du coup, on avait aussi peut-être plus confiance en nous pour cet album-là, et ce qui fait que c'était aussi peut-être plus, je sais pas, plus facile de faire brut, comme vient de dire MC, vraiment sans jamais essayer de rajouter des choses pour que ça sonne, en fait. Là, ça sonnait comme ça. Et c'est vrai que c'était trop cool de l'enregistrer en live. C'était pas le cas de l'album précédent. Et ça a vraiment bien marché.
Ouais. Ah, c'est vrai que l'album précédent, vous avez vraiment fait piste par piste, instrument par instrument, avec un gros travail de prod derrière.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Mmh. On a été très scolaires. La batterie, la basse, la guitare.
Ouais, puis le résultat, en fait, était beaucoup moins naturel et même moins carré, en fait. Je pense.
Oui, c'est plus difficile de jouer ensemble, en fait, quand on fait instrument par instrument.
Et là, le fait de ne pas avoir pu faire de scène depuis un certain temps, ça vous a gêné, je dirais, dans la préparation de cet album, où finalement, tous les automatismes sont revenus automatiquement. Déjà, vous avez déjà tourné en version Power Trio?
Oui, on a tourné pas mal en 2018, 2019. Ouais, on a pas mal tourné. Le seul truc qui nous a gêné, c'est qu'on aime bien tester les nouveaux morceaux en live. Et du coup, voilà, des morceaux comme Monster qu'on a pu faire un petit peu en live. Et du coup, on voit un petit peu devant des gens qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Alors, le but, c'est pas de changer totalement le morceau selon les gens, mais c'est de voir parfois. Et c'est vrai que là, l'album, on n'a pas pu. Par exemple, Pause Féminine, c'était pas du tout. C'était un interlude comme ça. Et maintenant, on a décidé de le jouer en live. Et du coup, on a un petit peu. On a dû passer beaucoup, beaucoup de temps pour adapter ce morceau en live. Parce qu'il n'était pas fait du tout pour du live, en fait. C'était pas. Donc, ouais, on aurait bien aimé tester nos morceaux en live. Bon, voilà. Là, on le fait maintenant. Du coup, là, ça recommence un peu les concerts. C'est le seul truc.
Alors, le grunge, c'est quand même assez radical. Alice, comment est-ce que tu travailles ta voix pour arriver à bien la pousser, là, un petit peu comme Kurt ou Cobain ou Courtney, enfin, Courtney Love? C'est des sources d'inspiration, d'ailleurs?
Nirvana ou Hall, ouais. C'est en plein dans le mille, c'est Hall, exactement, Nirvana. Et en plus, tu n'as pas cité L7, donc je suis aux anges. Parce que c'est vrai que souvent, ça revient dans les inspirations. Et bah, voilà, moi, je ne m'identifie pas aux Riot Girls, même si je pense que c'était très bien, ce mouvement-là. Mais moi, ce qui m'a inspiré, ce n'était pas tellement L7 et tout, c'était vraiment Hall, Nirvana. Effectivement, ouais. Après, j'ai... commencer à vraiment me mettre au chant vers 25 ans et j'ai été assez scolaire, je suis allée m'inscrire à l'école, j'avais des profs, des cours, j'étais vachement j'avais pas confiance en moi, je voulais vraiment pouvoir chanter bien, quoi. Donc comme je me disais, merde, j'ai déjà 25 ans et tout, faut vraiment que je donne tout. Donc j'étais hyper à l'écoute de ce que disaient tous les profs, je voulais même, j'avais un prof à l'école, une autre prof en cours particulier, je voulais pouvoir engranger un maximum de connaissances et de pratiques. Je travaillais, ouais, peut-être 1-2 heures par jour, beaucoup. Après, c'était un parcours difficile parce qu'il y a eu un moment où la technique, en fait, j'avais tellement une obsession de progresser techniquement que j'ai un peu perdu une spontanéité, je pense, dans le chant. Parce qu'au tout début, j'avais aucune technique. Donc, je me disais, de toute façon, tout ce que j'ai, c'est de l'expressivité artistique. Donc, il faut que je vais tout mettre là-dessus. Puis, bon, mais après, ce qui m'a rassuré, c'est que beaucoup d'autres chanteurs m'ont dit qu'ils sont passés par là aussi, en fait. Et après, c'est de retrouver, de remettre la technique au service de ce qu'on veut exprimer. C'est toujours l'expression qui doit venir en premier. Donc, je pense que j'ai quand même développé une technique assez saine, de base, de chant, quoi, même si je suis pas du tout encore à un top niveau de ouf, mais au moins ça m'a permis de tenir sur la durée. Et après, le cri, bah, il y a quelques techniques de chant saturé qu'on m'a donné, mais j'ai pas non plus travaillé ça spécifiquement. C'est marrant, c'est un truc qui est plus venu avec le temps, à force de le faire, quoi. Et je pense
C'est un travail sur les cordes vocales, parce qu'en fait, là, tu prends quand même le risque de te casser complètement la voix et pas tenir plusieurs concerts d'affilée. Comment ça se travaille, ça?
Bah normalement non, tu prends pas de risque si tu fais ça avec une bonne technique. Bah d'ailleurs tu vois bien, hein, les métalleux, ils peuvent enchaîner des voix saturées de malades. Non, il y a une bonne technique et d'ailleurs les bébés, tu vois, quand ils pleurent, ils peuvent pleurer pendant des heures, ils se font pas mal. Hein. Et alors, non, c'est dur, parce qu'en fait, ça joue sur une partie des cordes vocales qui est un peu au-dessus, ce qu'on appelle les fausses cordes vocales. C'est ce qui se ferme quand on se noie, par exemple, c'est au-dessus des cordes vocales. Ouais. Faut utiliser ça, faut soutenir vachement avec en bas, le diaphragme et tout ça, pour pas se faire mal. Après, moi, je la maîtrise pas non plus à 100%, hein, donc en vrai, des fois, je me fais mal. Quand on a répété tout à l'heure, je m'étais pas échauffée, j'avais vachement du mal à saturer, et aussi pour bien saturer, faut être dans une vraie colère. Donc des fois, c'est dur de se mettre dans cette colère comme ça sur demande. Voilà.
Alors justement, ça m'amène à la question sur l'inspiration. Donc là, tu as mentionné la colère. Vous êtes des filles en colère. Enfin, vous êtes en colère contre le monde, la société, la vie.
Ouais, on n'est pas contente. je pense que dans la vie de tous les jours, on travaille pas mal en collectif avec plein de voilà, on est à la campagne, on essaye vraiment de faire des réseaux de potes et on essaye vraiment de créer une vie meilleure entre guillemets. Et du coup, on est assez calme en fait dans la vie de tous les jours. Mais du coup, pour nous, la musique, c'est vraiment le moment où on peut exprimer notre colère. Ouais, moi, je suis en colère par exemple contre les politiques et je pense que c'est sain en fait. C'est une colère saine en fait parce que on a envie que les choses s'améliorent, on est en colère contre les injustices, on est en colère contre le traitement des femmes, contre le traitement des noirs, contre le racisme, l'homophobie, enfin je pense que c'est normal en fait, c'est les gens qui sont pas en colère moi qui me font peur. Je me dis pourquoi ils sont pas en colère, c'est un peu et du coup quand on est sur scène c'est vraiment le moment où tout ça nous revient. Mais après dans la vie de tous les jours on est assez cool hein.
Ouais. Moi je suis en colère contre les choses qui se perpétuent de génération en génération dans les familles, les violences, les tabous sociaux, les choses dont on parle jamais alors qu'il y a des statistiques horribles, les femmes battues, les enfants battus.
Le nom du groupe, donc She-Wolf, ça veut dire quoi? Les louves, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Pourquoi ce choix en fait, comme ça? Comment ça vous est venu ça? C'était une évidence?
On s'est pas trop penché sur ce nom-là. C'était il y a longtemps, on était en répète, quand on était encore à Paris, on cherchait un nom pour faire un concert, je crois. et voilà, il y a eu plein d'idées. Je crois que c'est moi qui avais lancé Louvre, après aussi She-Wolf. Après, on l'a gardé parce que, ouais, il y a le côté meute, il y a le côté de la mer, et en même temps, il y a le côté sauvage, il y a le côté, t'approches pas trop parce qu'on mord, mais en même temps, on est très protectrice. Il y a le côté de la nature, bien sûr. La nature, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour notre groupe.
Ouais.
Et du coup, on s'est dit, allez, gardons ce nom. Je pense qu'on aurait pu choisir un autre truc, hein, mais... ouais, on n'a pas voulu se prendre trop la tête, je crois, là-dessus. Mais bon, ça, voilà.
Ouais. Non, mais c'est un bon nom, ça claque, hein, c'est parfait. Alors, comment vous créez en fait? C'est quoi votre processus créatif? C'est les textes d'abord, la musique d'abord? Qui compose le plus? Est-ce que, je sais pas, Alice, tu débarques avec un riff? Enfin, comment ça se passe concrètement?
Je pense que là, il faut qu'on réponde toutes les deux parce que Marie-Claude, elle compose énormément. Moi aussi, on est à parts égales, je pense, là, sur l'album, c'est à peu près moite-moite. On n'a pas forcément les mêmes manières de faire. Moi, en général, je vais composer un truc à la guitare acoustique et voix, une mélodie, une structure rythmique et harmonique. Et puis après, on va arranger ensemble en répète. Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on en reparlait l'autre jour. MC, elle fait pas mal de MAO, donc ça, elle peut faire des démos hyper abouties. Avec en fait des instruments voilà déjà écrits et tout machin, et moi ça peut être abouti dans ma tête, mais je vais pas forcément tout emmener aux filles avec des partitions et des trucs écrits. Je vais plutôt essayer de transmettre ce que j'ai dans la tête, mais il y a quand même toujours une partie où de liberté artistique, je pense, où tout le monde fait un peu sa sauce et rajoute des trucs, et même des fois on se met ok sur un arrangement, et au fur et à mesure, à force de jouer le morceau, il y a des trucs qui se rajoutent, des petits chœurs par-ci par-là, des petits machins. Et voilà, MC.
Ouais, moi ça dépend, ça peut partir d'un rythme, ça peut partir d'une émotion. Par exemple, The Escape, c'est un morceau que j'ai composé en pensant aux violences psychologiques, notamment dans les couples. Et voilà, j'avais envie d'un truc. Donc, je suis vraiment partie du rythme lourd parce que je voulais montrer l'enfermement, en fait, comment dire, le non-espoir, en fait. Ouais, ça peut partir d'un rythme, partir de texte. Voilà, pause, par exemple, c'est vraiment sur le texte, en fait. Hein, voilà. Ouais, je pense qu'en tant qu'artiste, tout peut t'inspirer. Ça peut être un rythme, voilà, une mélodie de guitare, un de tes potes qui dit quelque chose et tu dis mais j'ai envie de le mettre en chanson, ou un politique qui dit un truc et ça va t'énerver et tu vas faire une chanson. Ouais, il n'y a pas vraiment de façon de faire, je pense.
Ouais, puis je pense à MC, elle a des traits, genre si elle est inspirée, bim, elle se pose et il y a un truc qui sort, j'ai l'impression, souvent.
Oui, moi, je suis une grosse feignante. Si ma compo en 5 minutes, elle n'est pas prête, je passe à autre chose. Donc le truc, une grosse feignante.
Ouais, mais moi, j'admire trop ça, je trouve ça trop bien. Moi, c'est tout un truc à chaque fois. Même des fois, j'ai rien qui m'inspire, mais je me dis, ah, il faut que j'écrive des morceaux. Je me pose, je cherche 1000 ans, tout est nul, c'est horrible. Et c'est qu'à la fin, quand j'ai limite abandonné l'idée, que ah, bah, il y a un petit truc que je fais, que j'aime bien, guitare, puis c'est parti, quoi.
Dans vos influences, on a cité évidemment Nirvana et Hole, mais est-ce qu'il y a d'autres groupes, d'autres mouvements autres que le grunge, en fait, qui ont été à l'origine de vos inspirations, ou qui sont des modèles ou des choses que vous écoutez régulièrement et que vous dites, tiens, ouais, c'est pas mal, on s'inspirerait bien de ça?
On parle souvent des inspirations. Alors ouais, on vient pas de nulle part, mais je pense que c'est très rare. Enfin, en tout cas, nous, moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais composé un morceau en me disant « Ah, je ferais bien comme ça », tu vois. Après, oui, on vient pas de nulle part. Je pense que déjà, on est lié par le rock. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien écouter Placebo, Muse. Je suis une grande fan de Trent Reznor. C'est vraiment lui qui a un peu changé ma vie. Hein. Je me suis mis à la musique grâce à lui. Et puis toutes les meufs, quoi, PJ Harvey, Björk, il y a eu pas mal de nanas qui nous ont inspirées, qui sont pas forcément dans le rock. Moi, Björk, je la considère comme une rockeuse, alors qu'elle fait pas du rock, elle fait pas du grunge, mais elle a un esprit tellement rock and roll, et puis sa voix, elle est tellement dingue.
Mais un peu comme Best Gibbons,
ouais, de Gibbons.
Portishead.
Voilà, je sais pas si toi, Alice, t'as d'autres...
Ouais, moi ça reste très 90, hein, Pixies, les Breeders, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques on partage Placebo.
Ouais, Placebo, ouais. C'est musique de jeunesse, adolescence.
Ouais. Alors justement, on a parlé des femmes dans le rock, vous avez déjà répondu sur l'histoire des Riot Girls, parce que j'allais vite vous poser la question sur le sujet, mais il y a pas mal, être une femme dans le rock, on se rend compte que c'est pas si simple, quoi. Il y a eu même un mouvement un peu MeToo dans les maisons de disques. Ça vous inspire quoi? Vous avez eu des situations un peu compliquées à gérer, soit dans le public ou vis-à-vis des maisons de disques?
Oui, de toute façon, je pense que 100% des filles dans la musique te diront que oui, elles ont toutes eu une expérience. Alors, ça peut être frontal, hein, ça peut être des remarques très, très déplacées. Quand on joue de la part des programmateurs, de la part des ingé-sons, de la part ça on l'a toutes eu, et puis ça peut être des phrases plus directes, genre ah non mais les meufs qui font du rock c'est vulgaire, bon voilà. Et puis après ça peut être beaucoup plus vicieux, qui est on a moins confiance, enfin on est moins sérieuse, on a une image moins sérieuse, c'est-à-dire que les hommes vont toujours se penser plus comment dire plus compétents, légitimes. Moi par exemple, je suis à la batterie, au début c'était quasiment systématique, des mecs qui sont même pas batteurs me montraient comment il fallait que je joue de la batterie. Et vu que tu débutes, tu te dis voilà, bon bah c'est et voilà, et en plus on n'a même pas le droit, là, une fille qui va être un peu médiocre, on va dire, bah, t'es une fille. Un mec qui est médiocre, ça passe plus, voilà, il y a plus un côté fraternel entre les mecs. Et voilà, moi, je fais du son en tant que... Donc, j'ai fait un peu de son dans des salles. J'étais ingé son. Oui, c'était très difficile. Hein. Y a des mecs en plein milieu du concert qui limite me virent de ma table de mixage en me disant, non, mais tu sais pas faire ton métier. C'est un truc que jamais ils se permettraient avec des hommes. Donc ouais, la légitimité, être prise autant au sérieux dans nos compétences, c'est très difficile. Et en plus, c'est un cercle vicieux, parce que vu que du coup on est moins visible, les gens se disent bah oui, c'est plus les, enfin ouais, il y a une, et puis nous on n'a pas confiance en nous aussi, parce que tout le monde médiatique et enfin les images qu'on a de la technique, c'est tout le temps des hommes, donc nous on est des femmes qui veulent faire de la technique, donc ouais, c'est assez difficile. C'est un peu un cercle vicieux. On a du mal à... Parce qu'on parle des violences physiques, et oui, des viols, des harcèlements. Donc ça, bien sûr, c'est dommageable, mais limite, c'est le haut de l'iceberg, en fait. C'est ce qu'il voit le plus. Mais ouais. Tout en dessous, il y a vraiment un. Voilà, il y a tout un truc à refaire pour que les femmes aient vraiment une place à égalité, quoi.
Et même là, tu vois, on est super contente parce que depuis que l'album est sorti, Parasite, on a plein de super retours médiatiques. Beaucoup de chroniques, super chouette, avec beaucoup de vraies, une vraie réflexion. On sent que les journalistes ont vraiment pris le temps d'écouter. Il y a plein de belles chroniques. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup ces comparaisons qui reviennent avec des groupes qui n'ont en commun avec nous que le fait d'être des femmes et de faire du rock. Mais bon, le rock, c'est hyper large, tu vois. Donc, pourquoi comparer avec ce groupe-là en particulier? Bah, parce que c'est des femmes. Et c'est vrai que moi, ça me blesse un petit peu parce que le rock de femmes, c'est pas un sous-genre de la musique, quoi. Ouais. Le rock de meuf, c'est pas une catégorie. Donc, c'est un peu énervant. Et c'est un peu comme si on disait, dès qu'un groupe composé de quatre hommes sortait un disque aujourd'hui, les comparer aux Beatles, quoi. Parce qu'ils sont que des hommes et qui font, tu vois, alors que ça, le groupe pourrait être un groupe d'électro. Ah, c'est un peu comme les Beatles. Mais non, en fait. Donc, c'est une forme de sexisme qui n'est pas du tout, qui part pas d'une mauvaise intention, je pense, mais qui ce serait bien que ça change un petit peu.
Ouais. Ah, est-ce que c'est ce contexte qui vous a inspiré le morceau, le seul morceau en français de l'album, Post-Féminine, un morceau qui est moins radical musicalement, mais en revanche au niveau du texte qui est extrêmement fort?
Oui, après c'est pas pareil, c'était un peu un coup de gueule. L'histoire de ce morceau, en fait, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Mythe de la virilité de Olivia Gazalet, que je conseille. Et donc, c'est une philosophe qui se penche un peu sur d'où vient la virilité, un peu les hommes dans l'histoire. C'est assez intéressant. Mais du coup, voilà, c'était 400 pages de l'histoire de pourquoi les hommes, enfin voilà, donc les femmes étaient, voilà, enfermées, enfin, tous les mythes avec, voilà, le mythe de Lilith, enfin, en gros, la femme qui est une pécheresse, dans toutes les cultures religieuses ou machin, à chaque fois. Souvent, la femme, c'est la séductrice, c'est la tentatrice, c'est la pécheresse. Dans les films, actuellement, c'est toujours pareil. Les femmes sont vues comme des nanas très sexualisées, qui, même si elles disent non, en fait, c'est oui. Enfin, tout ce... Enfin, je te fais pas le topo, mais tu vois l'image un peu... Et nous, on a un peu marre, en fait, de tout le temps être réduite à des séductrices, à des menteuses. Enfin, t'as un peu ce truc-là. Et bref, et dans le perche, en fait, il y a plein de nanas là qui sont vraiment extraordinaires, qui font de la charpente, qui font du maraîchage, qui, enfin bref, je côtoie plein de femmes qui, moi, je suis très admirative. Et du coup, c'était un morceau vraiment sur un coup de gueule de voilà ce qu'on dit des femmes, voilà ce qu'on fait aux femmes, et voilà ce que moi je pense que les femmes sont, en fait. Donc c'est un peu en trois parties, quoi, enfin en deux parties. Je ne sais pas si j'étais très clair. Voilà.
C'est très clair. Non, c'est très clair. On va écouter ce morceau, premier extrait de Parasite, le deuxième album de She-Wolf.
Mentheuse, perverse, débauchée, dépravée, cupide, indigne, imparfaite.
Donc c'était Pause féminine, extrait de l'album de She-Wolf, Parasite. On va passer à l'interview express. Plein de questions un petit peu tordues. Vous n'êtes pas obligé de répondre comme ça, tac, spontanément. Vous pouvez faire quelques recherches. La première question, elle est d'une absurdité totale. Si vous ne deviez garder qu'un seul album de l'intégralité de votre collection de vinyles, de cassettes, de MP3, de tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous garderiez ?
C'est horrible comme question.
Moi, je dirais c'est horrible.
Homogénique de Björk, pour plein de raisons.
J'hésite, mais bon, peut-être Live Through This.
Et si on restreignait le choix encore plus, si vous ne devez garder qu'un seul morceau, un seul titre.
Est-ce qu'il est forcément dans l'album qu'on vient de citer ?
Non.
Okay. Ah, moi, je dirais bien The Becoming de Nine Inch Nails.
Pause féminine de She-Wolf.
Ouais, t'as raison, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Est-ce qu'il y a des titres qui vous plongent dans une tristesse totalement insondable?
Portishead, ils sont forts pour ça.
C'est clair.
Undenial, c'est là, Undenial. Ah, je suis nulle en anglais. Undenial.
Undenied.
Ouais, celle-là. C'est
bien plombante.
Il y a un truc qu'il faut écouter aussi, c'est Clara Rockmore, c'est une des seules virtuoses de thérémine. Et le thérémine, ça te plonge dans un truc, c'est un son, on dirait une voix humaine, mais un peu fantomatique. C'est assez déprimant aussi, le thérémine. Clara Rockmore, il faut écouter ça, c'est assez...
D'accord.
Moi aussi, je dirais Portishead, hein, des titres pour pleurer, pour être triste... All Mine ou... Ouais.
Et alors, une fois qu'on a bien touché le fond, en fait, qu'est-ce qu'il faut écouter pour se remettre d'aplomb, pour se rebooster?
Moi, ce qui me booste en général, c'est pas tellement des musiques très gaies, hein, mais c'est du blues ou Nirvana ou tu vois des trucs qui exorcisent un peu, qui sont péchus, dynamiques, mais pas forcément très gays. Mais ça, moi, ça me fait du bien, ça me met de bonne humeur, je sais pas pourquoi.
Ou un petit System of a Down.
Ouais, grave.
Bam.
Ou un petit Coco. Bon, Fanny n'est pas là, on peut quand même...
Oui, Coco, c'est un groupe africain, c'est sympa.
Alors, est-ce qu'il y a un titre ou un artiste ou un son que vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez plus écouter, ou que, sur lequel vous bloquez complètement. Ça peut être un genre musical aussi.
Moi, j'ai du mal avec la pop. Tu sais, l'entre-deux qui fait un peu de rock, mais ce n'est pas vraiment du rock. Enfin, là, tout ce qui est chansons françaises, là, Julien Doré, ceux qui sont là depuis 20 ans, là, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de les voir. Non, mais c'est vrai. Hein,
La variété.
Ah ouais, non, mais... T'as envie de dire, mais laissez place aux jeunes, non ?
Ouais, je suis grave d'accord. Et puis à chaque fois ils orchestrent un retour, même quand plus personne veut trop les écouter ou que eux ils sont partis, ils font en sorte de revenir 10 ans plus tard de plus belle.
Et genre Benabar et tout là. Non mais je peux
Vincent
plus.
Vincent Delerme.
On peut plus laisser la place aux jeunes.
Les chanteurs à texte français comme ça qui chantent. Moi ça me fait super chier parce que c'est en train un peu de me le faire avec Radiohead, alors que c'est des dieux pour moi. Je l'ai pas cité tout à l'heure, mais Radiohead, c'est une référence de ouf. Et j'avoue que l'autre jour, j'ai essayé de me réécouter un peu certains titres de Hockey Computer et tout. Et je me suis surprise à me dire, bon, j'ai un peu trop entendu là. Et ça m'a fait mal. Mais bon, je me dis que c'est l'occasion d'écouter les autres albums un peu plus obscurs. Je n'ai pas trop écouté.
Et alors, évidemment, vous faites du grunge, c'est assez radical. Mais est-ce que parfois, dans ce que vous écoutez, dans un lieu peut-être secret, est-ce que vous avez quand même quelques petits plaisirs coupables ou quelque chose complètement inavouable que vous écoutez avec un immense plaisir et que vous seriez prêt à avouer ici?
Moi, j'avoue, j'adore un album de Zazie en live. Je suis à donf, et on est des grandes fans de Starmania.
Ouais. Starmania.
Voilà. Et donc parfois dans le camion, on se met Starmania Moi, j'ai appris à chanter sur Starmania d'ailleurs. Quand j'étais petite, je connaissais tout. C'était Starmania, c'est le truc que je peux chanter à tue-tête, mais pendant une heure en plus, je ne m'arrête pas. Et
je confirme, je l'ai vu en soirée.
Voilà. Et je m'excuse d'avance d'ailleurs pour les prochaines soirées.
Mais t'as pas dit Céline Dion?
Ah oui. Ouais, bah ouais, mais Céline Dion, tout le monde écoute Céline Dion en soirée, non? Tout le monde. Un petit, ouais.
Un petit, j'irai chercher ton cœur. Non, un petit, les poings serrés.
Voilà, prière c'est parisienne, voilà. Ça, c'est, je veux dire, c'est la culture française, quoi. On est liés par ça. J'irai où tu iras.
Tu l'es. Ah ouais, moi, c'est les Hanson.
Ah oui, Humbop.
Humbop.
Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'était un truc unique, en fait. Enfin, complètement accrocheur et, ouais, on disait, il n'y aura pas de suite, quoi.
Ouais, c'était un peu ça, ouais.
D'ailleurs, il y a aussi...
Bah si, ils ont fait d'autres trucs, mais je pense qu'ils ont été écrasés par le tube, ouais. Genre de truc où partout où tu vas, on te demande que ça.
Ouais, c'est ça, voilà. Le Born to be Alive de... Ouais. de Hanson. Et est-ce que vous avez des idoles absolues, enfin vraiment des artistes que vous vénérez complètement, où vous dites, waouh, on aimerait arriver à ce niveau?
Marie-Claude Dartine. Non, mais c'est vrai. Moi, j'admire Marie-Claude comme artiste pour plein de raisons. Et voilà. Et sinon, à part ça, les artistes.
Je suis contente de la prendre. Merci.
Bah, quand même. Dans les artistes connus.
Ah, bah, Crane Reznor. C'est le dieu. Mmh. C'est dieu sur terre, de toute façon. Bah, ouais, Kurt Cobain.
Grave. Bah, Kurt Cobain, ouais. Parce que voilà, génie. Dans la composition, compositeur de génie, et parce que j'ai l'impression que limite, quelque part, il devait se douter que ça allait pas durer très longtemps, sa petite vie, mais qu'il a dû choisir quand même de vivre comme ça et de tout donner plutôt que de.
Non, mais tu vois, Trent Reznor, il a eu une période totalement trash aussi, ouais. Et lui, au lieu de s'auto-détruire jusqu'au fond, il s'est dit, allez, j'arrête les conneries, et du coup, il a arrêté la drogue et tout, et c'est un autre homme maintenant, ouais. Et il continue la musique. Et c'est deux chemins différents, en fait.
C'est vrai.
Et il est producteur, ouais. Et il aide d'autres groupes et tout, tu vois.
Alors que c'était
il fait des musiques de films, en fait,
ah ouais,
plein de choses.
Ah, sinon, j'aime bien, j'adore, comment elle s'appelle, cette nana. Elle s'appelle, qui a écrit beaucoup de titres pour des chanteuses très connues, du genre Christina Aguilera. Elle a écrit Beautiful. Elle est très copine avec Courtney Love aussi. Linda, quelque chose.
Ah, Linda Perry.
Ouais, Linda Perry. Bah, d'ailleurs,
For Non-Blondes. C'était...
Voilà, c'était la chanteuse des For Non-Blondes.
D'accord, oui.
Et j'adore son côté où, en fait, t'as l'impression que pour elle, composer... En fait, elle s'en fout si elle est sur l'avant de la scène en train de jouer d'un instrument ou de chanter ou de composer. C'est vraiment le même plaisir. Elle a du plaisir à composer aussi pour les autres et à coacher aussi les autres chanteuses et chanteurs et à aller chercher la sincérité au fond de ces chanteurs et chanteuses. Et je trouve, la trouve super, cette nana. Je pense qu'elle fait du bien à l'industrie musicale.
Alors, en fille, il y a aussi Nina Simone, moi, ouais. Qui, parce qu'elle jouait tellement bien du piano et sa voix, enfin, elle avait un genre de. Elle était assez complète comme artiste, contrairement à d'autres artistes comme Billie Holiday, qui était une chanteuse qui était. Enfin, moi, j'adore Billie Holiday, mais qui n'allait pas forcément jouer sa musique. Nina Simone, quand même, elle serait née actuellement, je pense qu'elle aurait une carrière. Différentes, ouais. Je pense.
Facilité.
Ouais.
Est-ce que vous avez des livres cultes ou des films cultes qui vous inspirent, qui vous guident, auxquels vous vous raccrochez?
Moi, j'ai mon livre préféré, c'est Ligne de faille de Nancy Houston. Et ça parle justement de tout ce qu'on se transmet dans la famille. Alice en parlait un peu tout à l'heure, mais la violence et la beauté aussi, ce qui se transmet de génération en génération. C'est un bouquin qui est vraiment très très fort. Voilà, d'ailleurs je l'avais offert à Alice, mais je crois qu'elle l'a toujours pas lu.
Ouais, j'ai pas le temps, j'écris des chansons pour dire que j'ai pas le temps de lire, du coup trop mignon, on m'arrive, mais moi après un livre et après j'ai pas le temps de le lire. Non, mais peut-être en août, ça serait cool. Mais en tout cas, c'est le prochain livre sur ma liste, Aline, ouais. Mais tu parles de livres, bah moi quand j'étais petite, j'adorais lire, je lisais beaucoup des trucs cultes comme des trucs à la con. J'aimais bien me plonger dans des séries de bouquins, Club des Cinq, Les Animorphes. Mais dans ce qui m'a marqué, j'avais adoré Le Monde de Sophie, qui est un bouquin de philo, vulgarisation de la philosophie expliquée à des débutants, super bien fait, quoi.
Ben on voit où ça t'a amené. Hein.
Ouais.
Alice est prof de philo, faut quand même.
D'accord.
Remplaçant.
D'accord. On saura tout.
Et les livres, bah, et les films, bah, moi, le film de mon adolescence, Fight Club, quoi. Qui, tu places ce film dans une conversation, tu reconnais tout de suite tes amis, quoi. Tu sais que tu vas, avec qui tu vas pouvoir discuter, tu vas être pote.
C'est dur comme question, parce qu'il y a tellement de, tellement de films, il y a tellement de styles de films. Moi, je sais, quand j'étais petite, c'est, enfin, ado, Lynch, ça m'avait pas mal marqué, Lost Highway, Mulholland Drive. Mais voilà, ouais, c'est la période un peu sombre de l'adolescence où t'as envie de regarder des films comme ça. Maintenant, ça me touche moins. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu commences à faire de la musique, ouais, tu te regardes un Lost Highway, ça te marque.
Eh ben cool. Bah, merci She-Wolf, merci Alice, merci MC. Alors on va écouter Parasite, donc le titre qui donne son titre à l'ensemble de l'album. Une anecdote, quelque chose à raconter sur sur ce titre.
Bah moi, l'anecdote que je pourrais raconter, c'est quand Alice nous a envoyé la démo de ce, j'ai fait ce titre est génial, mais comment elle va réussir à le chanter en live? Je pensais vraiment qu'elle allait se casser la voix à chaque concert ou à chaque répète. Et non, ce n'est pas le cas. Donc bravo Alice.
Merci. Des fois c'est dur, hein. Mais... ouais, non, voilà. Bah anecdote, l'intro. On a une longue intro basse batterie et c'est un peu un gimmick qui revient aussi dans pose féminine, ouais, qui nous suit, ouais, un peu dans l'histoire du groupe. Ouais. Donc c'est marrant.
Dans le premier album aussi, il y avait le même gimmick. On place un peu les mêmes, cette même ligne de basse.
Ouais. Voilà.
Bon bah super. Eh ben merci beaucoup et puis ben à bientôt en live, comme j'espère avoir l'occasion de vous voir sur scène défendre l'album.
Ben ouais.
Vous avez une tournée prévue là, dans les mois, ouais, les semaines qui viennent?
Ouais, on a des petites tournées. Bon, là, cet été, on fait des concerts, mais plus dans des secret places. Mm-hmm. Voilà, donc faut venir nous demander pour savoir où c'est, tout ça. Après, sinon, à la rentrée, on va pas mal tourner en Bretagne et en Allemagne. Voilà, donc je crois qu'on a 6 dates en Bretagne, un truc comme ça.
Ouais, et on a une petite date là où on habite, à Nogent-le-Rotrou, pour notre release party le 11 septembre, à l'Arsenal, Nogent-le-Rotrou. Et ouais, c'est en novembre, je crois qu'on part en Allemagne.
Oui.
Pour quelques dates. Bah, de toute façon, et on va jouer du côté de Nantes aussi en octobre et fin septembre. Mais toutes nos dates sont sur notre site internet, qui est géré par Marie-Claude, qui s'appelle she-wolf.net. Voilà.
Et ben voilà, c'est noté. Super.
Ben à merci
bientôt.
À toi.
Merci beaucoup, c'était cool.
Salut.
Au revoir.
Salut.
Guilty of strangling mercy.
Le volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nésic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.